France Inter.
Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. La seule exigence fixée est que nous ne pouvons pas laisser dégrader l'équilibre financier. Ce serait une faute impardonnable contre notre pays.
C'était il y a 5 mois, jour pour jour, 14 janvier, déclaration de politique générale. Le Premier ministre François Bayrou annonce la remise en chantier de la réforme des retraites. Naissance du conclave, le conclave à la fois une assurance contre la censure de la gauche et un marqueur. Désormais, on écoute les partenaires sociaux. Ceux-ci partirent 8, mais arrivant maintenant au port, puisque nous sommes à 3 jours de la date butoir, 3 organisations sont déjà descendues du bateau. La CGT notamment, après que dès fin mars, François Bayrou a expliqué qu'il estimait impossible le retour à 62 ans. Cette semaine, le MEDEF a aussi abattu ses cartes et officiellement rejeté l'idée. Ce n'est donc pas ce conclave qui abrogera les 64 ans tout en parvenant à l'équilibre financier. Alors, question ce matin, peut-il y avoir un accord ? On a compris qu'à défaut de revoir l'âge de départ pour tous, on pourrait peut-être revoir les âges de départ pour certains, pour les mères de famille, pour ceux qui ont un métier pénible, pour ceux qui n'ont pas toutes leurs annuités. Combien seront concernés ? Les syndicats qui ont emmené des centaines de milliers de Français dans la rue vont compter et autour de la table, avec le patronat, tous calculeront jusqu'à la dernière minute. Au fait, qui va payer ? Un accord font valoir aussi certains au gouvernement, ça serait la porte ouverte sur une autre discussion. Ensuite, par exemple, la délégation aux partenaires sociaux de la gestion du régime général des salariés. Grosse incitation pour conclure. Et s'il n'y a pas d'accord ? Eh bien, la réforme s'appliquera et au Parlement, la situation se compliquera sans doute pour François Bayrou. Certains pourraient tenir le gouvernement responsable de l'échec. Là aussi, sans totem ni tabou.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
C'est samedi, c'est économie. Merci d'être avec nous, vous, de l'autre côté des ondes. Et puis ici, il y a la bande, Valentin Pérez, Céline Hila, Étienne Bertin, Joseph Ascal, Pauline Laverdure au mix et Jérôme Ragano, juste en face de moi, à la technique. Ce matin, notre invité, c'est le patron de La Poste, Philippe Val, 12 années aux manettes. Dans 2 semaines, il passe la main. Dans quel état laisse-t-il l'entreprise ? À quel défi ce service public doit et devra faire face ? Interview vers 9h40. L'intelligence artificielle, on en a beaucoup parlé cette semaine avec VivaTech. Elle se diffuse au travail, dans le privé, comme dans le public. Alors, coup de projecteur sur les services publics, quels outils d'IA sont-ils en train d'installer, d'utiliser ? Quels bénéfices ou quels coûts pour les agents et les usagers ? Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Vous entendrez aussi Madame Vieux-Boulot qui est là, Sandrine Foulon, bonjour.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Alors, c'est notre auditrice Laure de Grenoble qui vous a écrit. Qu'est-ce qu'elle veut savoir ? Vous démarrez trop tôt.
Laure en a marre de recevoir son salaire trop tard, elle voudrait que son patron la paie avant le premier du mois. Peut-elle l'exiger ? Je vous réponds tout à l'heure.
Ah oui, on veut savoir. Est-ce qu'on peut être payé avant le premier du mois ? Rendez-vous juste avant le journal de 10h, Sandrine Foulon. Tout de suite, c'est le débat, ce samedi, avec Marc Vigneault, mon confrère de l'Opinion. Salut Marc.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Et Ludovic Subran, bonjour Ludovic.
Bonjour à tous.
Alors vous êtes chief, j'ai pas trouvé la traduction en français.
Ouais. Directeur des investissements.
Alors, chief investment officer, c'est ce qui a marqué.
C'est ça. Ouais.
D'Allianz, le plus grand assureur et investisseur européen, ça veut bien dire que c'est vous qui dites comment on va investir 750 milliards d'euros d'épargne, c'est ça ?
Oui, alors après, c'est à l'allemande, donc il y a beaucoup de gens qui se mettent d'accord. Ils aiment beaucoup le consensus, donc c'est pas moi tout seul qui décide.
Ouais. Ok. Décryptage géopolitique ce matin, parce que, en effet, dans les décisions d'investissement, et quand on écrit aussi sur le budget, donc pour Marc et pour Ludovic, c'est important, ce qui se passe dans la géopolitique, est-ce que nous sommes à un tournant de la guerre commerciale ? Les négociateurs chinois et américains ont annoncé cette semaine être parvenus à un accord cadre, sur quoi ? Pour combien de temps ? Est-ce que les Européens doivent y trouver matière à réflexion hein, pour défendre leurs propres intérêts ? C'est le débat.
Les États-Unis et la Chine sont peut-être en train d'enterrer la hache de guerre commerciale. Donald Trump, qui peut toujours changer d'avis, a annoncé hier que les deux pays avaient trouvé un accord cadre après 2 jours de négociations à Londres.
Au cours des deux derniers jours, les équipes chinoises et américaines ont eu des échanges approfondis.
Li Chenggang, représentant chinois au commerce international.
Nous espérons que les progrès réalisés lors de cette réunion à Londres contribueront à renforcer la confiance entre la Chine et les États-Unis pour un développement stable et sain des relations commerciales et économiques.
La Chine a une occasion unique de stabiliser son économie en passant d'une production excédentaire à une consommation accrue.
Scott Bessent, secrétaire américain au Trésor.
Si la Chine corrige le tir en respectant sa part de l'accord commercial initial, alors le rééquilibrage des deux plus grandes économies du monde est possible.
La situation jusque-là n'était pas vraiment tenable.
Chu Yanli, consultante, fondatrice du cabinet de conseil Feida Consulting.
Les économies chinoises et américaines sont très interconnectées aujourd'hui. Oui. Par contre, la Chine possède quand même quelques leviers très importants, par exemple l'accès aux terres rares. La Chine détient aujourd'hui environ 70% de la production mondiale de terres rares, qui sont essentielles pour les secteurs des véhicules électriques, l'armement, les missiles, etc.
Donald Trump, président des États-Unis.
On a eu une très bonne conversation avec le président Xi Jinping. On est en bonne position avec la Chine et l'accord commercial.
Je pense qu'il est surpris du caractère résolu avec lequel la Chine lui tient tête depuis le début.
Laurence Nardon, chercheuse, responsable du programme Amérique de l'IFRI.
La Chine d'aujourd'hui, 2025, n'est pas celle de 2016-2017, lorsque Trump est arrivé dans son premier mandat. Et du coup, les économistes de la Banque mondiale ont révisé leurs prévisions. La Chine ne va pas du tout dépasser les États-Unis en termes de PNB. Et donc, l'adversaire chinois est moins brillant qu'il y a 8 ans, lors du premier mandat de Trump, ce qui ne veut pas dire qu'il soit moins dangereux.
Marc Vigneault, je me tourne vers vous. On a eu des mois de tension depuis avril et le Liberation Day. Un quasi-embargo entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que ce qui s'est passé cette semaine, et vous allez nous dire ce qui s'est passé, dans la nuit de mardi et mercredi, ça ressemble à une bouffée d'air?
Je crois qu'il faut être quand même assez prudent parce que c'est un accord qui doit être confirmé au niveau de Donald Trump et de Xi Jinping. Et donc, il faut voir exactement ce qu'il y aura dans l'accord. Je crois qu'il va d'ailleurs rester secret. Donc, tout est niché dans les détails. Les Chinois, en gros, se sont engagés à faciliter, enfin en tout cas moins mettre de restrictions sur les exportations de terres rares vis-à-vis des États-Unis. Et dans la foulée, le Financial Times expliquait que à chaque fois qu'il propose à des entreprises américaines d'importer des terres rares et même européennes d'ailleurs, ils leur font remplir tout un formulaire avec un nombre de données incroyables pour savoir à quoi ça va servir, quels sont leurs clients, etc. et qu'ils piquent tout un tas de données. Donc on va voir si cette concession chinoise tient vraiment. De leur côté, les États-Unis, ils ont décidé de desserrer des restrictions à l'exportation de moteurs d'avion, de pièces détachées aéronautiques, d'un gaz qui s'appelle l'éthane, qui est utilisé dans la fabrication des plastiques. Et donc, c'est ça un peu l'accord. Et on revient à des droits de douane qui sont bien inférieurs au taux complètement délirant qu'on avait pu entendre, 145% je crois du côté des États-Unis,
ça, ouais.
125% du côté de la Chine. Ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'à la fin, on se retrouve, si vous additionnez les différentes couches de droits de douane que les États-Unis imposent aux Chinois, à 55%, c'est ce que dit la Maison-Blanche. Donc c'est quand même un changement de monde, 55% de droits de douane. Eux, les Chinois, de leur côté, ils n'ont plus que 10%, mais ils ont toujours sur la table, ils disent, dans 6 mois, on vous accorde des exportations vers les États-Unis de terres rares, mais dans 6 mois, on va voir si on prolonge les licences. Donc il y a toujours l'arme sur la table, et ça peut déraper à tout moment.
Bon d'accord, il y a toujours l'arme sur la table. Ludovic Subran, est-ce que c'est aussi votre lecture de cet accord cadre qui a été signé donc à Londres entre les deux émissaires américains et chinois et pas encore par les présidents?
Oui, alors il y avait déjà deux émissaires américains et ça c'est hyper important, c'est-à-dire il y avait Robert Lutnick qui est le secrétaire au commerce extérieur et Scott Bessent. Et il y avait, c'est en gros good cop, bad cop, c'est-à-dire que Lutnick c'est le fou qui conseille Trump depuis plusieurs mois maintenant et qui fait des dégâts tous les jours, et Scott Bessent qui est un peu le secrétaire au trésor, le ministre des finances, beaucoup plus cortiqué et qui essaie à chaque fois de rattraper le chaos mis par Lutnick et son compagnon Père Navarro. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux en même temps pour l'émissaire chinois He. Moi, je crois qu'il y a trois choses majeures qui sont passées à Londres. Alors ça paraît être un aller-retour, ils sont vus à Genève, ils se voient à Londres, ils se voient une autre fois. La première, c'est d'arriver à un accord cadre sur les barrières douanières, c'est-à-dire le montant, les 55%, c'est pas anodin. Parce qu'en effet, on fluctue entre, en gros, 25 avant à 150, et donc là on est à 55, et ils disent on va pas bouger.
Imposé aux produits chinois qui sont importés aux États-Unis, c'est
exactement.
Ça
exactement. Okay. Et les produits américains en Chine, 10%. Je trouve que c'est très élevé, Marc l'a dit. Faut savoir que c'est 10% de, en gros, la taxe qu'on va tous avoir, y compris les Européens, plus 25% spécial Chine, Mexique, Canada, à cause de, du fentanyl, plus les 20% ou 25% qu'il y avait avant. Donc c'est ça l'approche chinoise. Mais c'est intéressant d'avoir un accord cadre, parce que c'est ça qu'il faut chercher pour nous les Européens. Deuxième chose, les terres rares. Le fait que les Américains sécurisent un accès aux terres rares de façon privilégiée, c'est hyper important pour nous, notamment pour la filière automobile européenne. Parce qu'on a beaucoup d'entreprises en Europe qui ne peuvent pas fonctionner sans terres rares, et donc elles ont quelques mois de stock. Donc là, il va falloir voir si cet accord nous met à l'amende, nous, Européens. Donc c'est hyper important.
Vous voulez dire, est-ce que les Américains... Ok, est-ce que l'avantage obtenu par les Américains, malgré ce que dit Marc, que ça va encore être assez contrôlé, est-ce que cet avantage va être à notre détriment ?
Bien sûr, ils nous damnent le pion. Rappelez-vous quand les Américains allaient chercher les vaccins au cul du camion, enfin au cul de l'avion dans ce cas-ci.
Ouais,
ben là, on a la
COVID.
Même chose. Donc ça, c'est hyper important parce que les terres, il n'y en a pas non plus énormément. C'est dur à extraire et puis il y a beaucoup de gens qui en veulent. Et troisième chose, ça devrait nous donner un peu une marche à suivre pour les Européens, pour notre négo. Parce qu'en fait, on voit qu'il faut y aller plusieurs fois. Il faut le faire par itération et Trump est drogué à la popularité. Il faut qu'à la fin, il ait l'impression de gagner quelque chose. Et donc, ce qu'il gagne, lui, c'est 55 versus 10. Mais dans les faits, c'est le consommateur américain qui perd. Parce que lui, il va payer à peu près un demi-point d'inflation de plus à cause de ces barrières à l'entrée pour les biens chinois.
Marc Vigneault, est-ce que vous le lisez comme ça vous aussi ? Est-ce qu'il y a une victoire américaine ou une défaite américaine ? Parce que si on lit la presse américaine, c'est pas si sûr cette victoire.
Américaine ?
Ouais, si on lit New York Times.
Moi, je pense que c'est pas du tout une victoire américaine. Je pense que les Chinois se sont très très bien débrouillés. Ils ont contourné. Donc les Américains avaient fait des restrictions d'exportation de puces de haute technologie pour mettre la pression sur les Chinois. Depuis, ils ont beaucoup travaillé et ils ont des technologies alternatives. Donc ils ont contourné ce problème-là. Les Américains ont essayé de mettre des sanctions sur les logiciels qui permettent de fabriquer ces puces. Mais encore une fois, les Chinois semblent arriver à peu près à gérer ça. Et par contre, ils ont l'arme de l'exportation des terres rares. Et là, j'ai peut-être une petite nuance avec Ludovic, j'en sais rien. Il va nous dire, mais je pense que quand même, les États-Unis mettent 55% de droits de douane. Donc les Chinois vont quand même, avec les Européens, ils vont plutôt essayer de chercher un accord pour continuer à commercer avec nous. Et j'espère qu'on aura au moins les mêmes conditions d'exportation de terres rares. Et comme je disais, le lendemain de l'accord, ou le surlendemain, le Financial Times explique à quel point les autorités chinoises demandent des informations stratégiques sur toutes les entreprises du monde, d'ailleurs, pour exporter les terres rares. Donc on voit clairement qu'ils ont encore l'arme sur la table. Je pense que les Chinois sont quand même en bonne position. Ils ont fait beaucoup reculer Donald Trump. Hein. C'est lui qui a initié la guerre. Certes, il met 55% de droits de douane, mais quand même... Il fanfaronne plus autant que ça. Il voit bien que ces sanctions sont quand même pas si terribles pour les Chinois. Et surtout, il risquait d'avoir des rayons vides chez lui dans tous ces supermarchés quand même pour ses électeurs. Et c'est quand même
d'iPhone.
Pas terrible.
c'est ça ouais. Surtout.
Ludovic, est-ce que si dans cet accord il y a, c'est pas encore tout à fait sûr, j'ai l'impression, l'idée que les Américains desserrent la contrainte pour exporter des semi-conducteurs vers la Chine, donc de la techno dont la Chine manquerait, est-ce que ça c'est pas la grande défaite? C'est-à-dire que si Trump n'avait pas mis cette guerre, Biden pendant des années a essayé de leur couper l'herbe sous le pied. Et là, si Trump dessert cette contrainte, est-ce que ce n'est pas une grosse défaite ?
Moi, de toute façon, je pense que la guerre commerciale, c'est un jeu auquel tout le monde perd à la fin, à cause des coûts, à cause des frictions. Donc moi, je suis forcément d'accord sur le fait que c'est une perte. Sur l'histoire des semi-conducteurs, en fait, se joue Taïwan. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais il faut se dire qu'il y a une alternative qui est Taïwan. Il y a cette ambiguïté stratégique sur le soutien inconditionnel des États-Unis à Taïwan que Trump remet en question, puisqu'il a dit que Taïwan, c'est aussi un concurrent. Et donc, je pense que c'est aussi là, pour le coup, les diplos qui ont dû dire faites quelque chose sur les semi-conducteurs. heure, ça va potentiellement décaler la prise de position plus maximaliste de la Chine sur Taïwan. Mmh. Je voudrais dire juste deux choses. La première, c'est qu'il y a eu un exemple d'un pays qui a essayé de se défaire des terres rares, c'est le Japon en 2010. Ça a pris 8 ans pour baisser d'à peu près 20% sa dépendance à la Chine des terres rares. 8 ans. Donc il ne faut pas négliger cette hyper-concentration sur les terres rares. Et la deuxième chose, pour les semi-conducteurs, hein, on a un vrai sujet sur les semi-conducteurs, parce que Marc le disait, c'est le contenu technologique, ça on l'a bien compris, mais le contenu sécuritaire. En fait, aujourd'hui, vous l'avez vu, on a beaucoup de cas d'infrastructures qui utilisent les semi-conducteurs en Europe et qui auraient des switches chinois. Ça, on en entend parler pour les panneaux solaires. Il y a eu le cas du Danemark. Il y a énormément de caviardage d'infrastructures grâce à des mécanismes intelligents qui sont mis par les Chinois dans nos infrastructures et qui les mettent dans une situation d'infrastructures critiques qui sont dépendantes et qui pourraient être, encore une fois, assujetties en fait à des interventions chinoises. Les Américains veulent reprendre un peu, à mon avis, une forme de
contrôle. D'avantage.
C'est un peu du contre-espionnage, je pense. Il ne faut pas le négliger.
Est-ce que l'Europe a la bonne position, Marc, jusqu'à présent? Là, on voit, alors, en gros, là, Xi Jinping peut peut-être écrire l'art du deal face à Trump. Est-ce qu'on doit en prendre des leçons? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a la bonne attitude? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il faut... Je ne sais pas.
Bah alors moi déjà, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que de plus en plus, il se murmure que Trump, en fait, recule à chaque fois, brandit des choses qui font très peur, et puis recule. Et donc, il a eu l'air assez vexé. Et comme il faut conclure l'accord avec l'Union européenne, sur qui ça pourrait retomber, le « regardez, en fait, je tiens, ça pourrait être sur nous. » Bon, concernant la stratégie de l'Union européenne, je pense qu'il faut serrer les problèmes. Si les États-Unis, à la fin, nous disent « on vous met 10% de droits de douane, comme un peu à tout le monde, ce qui semble être le plancher, puisqu'il faut qu'ils aient des rentrées fiscales pour financer leur baisse d'impôts, etc. » À ce moment-là, l'Europe a peut-être pas nécessité de répliquer parce qu'elle va se tirer une balle dans le pied et c'est les États-Unis qui vont s'infliger le plus de dommages économiques. En revanche, si l'idée c'est d'imposer des droits de douane sectoriels de 25% sur l'automobile, sur les pièces détachées, 50% sur l'acier, de mettre des droits à 20%, etc. Alors là, faut sortir les guns et il faut être préparé à répliquer et répliquer très fort, et on peut parler de comment on peut répliquer.
Ouais, ben justement, alors vous n'arrêtez pas avec cette image de pistolet, Marc, ce matin. Donc, Ludovic, est-ce qu'on a un gun ?
Ouais, moi, je pense qu'il faut... Oui, le gun, c'est les services.
Alors,
et en fait, donc il y a l'approche un peu classique européenne, taxation, régulation, ou alors on y va beaucoup plus fort et on empêche les services américains de fonctionner en Europe. Donc on enlève les licences, c'est ça le vrai gun.
Mais alors les services, on va dire leur nom. Les services, c'est tous les GAFA.
Ouais, c'est ouais. Netflix, Amazon, Microsoft, mais c'est aussi les services financiers, pour être honnête. On a les banques américaines en France, en Europe. Donc la question, c'est est-ce qu'on est prêt à être maximaliste ? C'est-à-dire, est-ce qu'on suit l'exemple chinois ? Qui sont allés hyper fort, et ça fait reculer Trump, le fameux taco trade, hein. Trump always chickens out, Trump toujours fait une poulouillée, devient se dégonfle, ouais. Ou alors on fait ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on y va un petit peu et puis on fait un peu l'Harley Davidson, on fait un peu le Bourbon, mais tout le monde s'en fout en fait, ça n'a aucun effet. Mais ça, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce que l'Europe veut faire.
La question, c'est en termes de timing, est-ce que l'Europe a intérêt à dire qu'elle va taper sur les services financiers, les services américains maintenant,
ou
de voir
un
peu
il faut peut-être
le préparer, avoir le doigt sur la gâchette, mais pas trop le dire pour éviter d'énerver Donald Trump, non, je sais pas.
Le pistolero, Marc Vigneault et Ludovic Subran, ils ont fait le débat de On n'arrête pas l'écho ce samedi 14 juin.
La déindustrialisation
L'écho en VO, c'est pour comprendre comment on pense et comment on vit l'économie ailleurs. Nous restons du côté chinois, avec le point de vue chinois. Et cette semaine, une décision historique de Pékin en faveur de l'Afrique.
Xi Jinping 主席向会议致贺信，宣布将落实对53个非洲建交国实施100%税务产品零关税举措，为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。
C'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois qui parle. Alors je résume sa parole. Le président Xi va mettre en œuvre l'initiative zéro tarif sur les exportations africaines, c'est-à-dire des droits de douane nuls pour 100% des produits de 53 pays africains qui ont des relations diplomatiques avec la Chine. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, ni hao, bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial permanent de France Inter en Chine. Les exportations de l'Afrique vers chez vous, hein, de janvier à mai, c'était quand même 50 milliards de dollars, c'est pas nul. Alors, est-ce un pied de nez à Donald Trump qui semble abandonner le continent ? En tout cas, Sébastien, la Chine a bien l'intention de devenir encore plus présente et plus influente en Afrique.
Alors oui, la Chine avait déjà fait un gros effort l'année dernière après le sommet Chine-Afrique de Pékin en supprimant les droits de douane pour les exportations des pays africains les plus pauvres. Là, c'est une faveur beaucoup plus large qui est accordée. 53 pays africains au total vont désormais pouvoir vendre des produits à la Chine sans avoir de droits de douane à payer, c'est-à-dire tout simplement l'ensemble du continent, à l'exception de l'ex-Swaziland, puni en raison de ses relations avec Taïwan. Des droits de douane à zéro, voilà qui va sérieusement stimuler les économies des pays africains les plus actifs sur le plan industriel, comme le Kenya, le Nigeria ou le Maroc, qui travaillent déjà avec la Chine en vendant notamment des produits agricoles. C'est une décision très habile de la part de Pékin, qui apparaît ainsi aux yeux des pays africains comme un partenaire commercial vertueux, alors qu'en face, Donald Trump, lui, se montre sans pitié en imposant des droits de douane pour certains pays africains à hauteur de 50%. En supprimant les taxes, la Chine, elle, devrait réduire son déséquilibre commercial face à l'Afrique. Le déficit fin mai était de 30 milliards de dollars, à l'avantage de la Chine.
Et Sébastien, dans sa relation avec les États africains, la Chine, elle devrait aussi profiter d'une autre décision de Donald Trump.
Oui, c'est l'arrêt quasi total de l'USAID, les programmes d'aide humanitaire et d'aide au développement destinés notamment à l'Afrique. On s'attend à ce que la Chine se précipite pour combler ce vide, ce qui va là aussi redorer l'image de Pékin sur le continent africain, même si évidemment, personne n'est dupe sur cette opportunité qui va aussi permettre aux Chinois de faire davantage d'affaires en Afrique.
Sébastien Berriot, avec nous de Pékin. – 9h34 sur France Inter, dans moins de 10 minutes, mon invité, c'est le PDG du groupe La Poste, Philippe Vall. Mais d'abord, coup de projecteur sur le futur des services publics. Eh bien, comme dans le privé, ça passe visiblement par l'intelligence artificielle. L'IA qui est en train de se diffuser dans les bureaux, et on l'a vu, et on en a parlé cette semaine au salon Vivatech. Est-ce qu'on a déjà une idée du résultat pour les agents, bien sûr, pour les usagers? L'IA va-t-elle rendre l'État plus efficace? Ce matin, nous rejoignons notre reporter Anaëlle Verzeau. Elle est à Blois, dans la région Centre-Val de Loire. Nous voici tous ensemble devant l'ordinateur de Jean-François. Il est conseiller France Travail depuis 3 ans. Et depuis le mois d'octobre, Jean-François utilise MatchFT, le nouvel outil de France Travail d'intelligence artificielle pour apparier les offres et les demandes.
Hop, je vais taper la référence de mon offre.
Donc 193 KST.
Oui, c'est une offre de peintre aéronautique.
Pour Saint-Julien de Chédon, c'est dans le 41.
Je me retrouve avec cette offre-là, il va falloir que je trouve des candidats.
Donc là, vous avez cliqué sur un bouton.
Et j'arrive directement sur l'interface de MatchFT. Là, j'ai accès à l'ensemble des profils disponibles en France.
Vous avez 125 profils qui s'affichent.
C'est ça. Et ensuite, comment ça se faisait avant ? Eh bien, avant, je prenais mon téléphone et j'appelais tous les candidats un par un pour savoir s'ils avaient bien reçu ma proposition d'offre et s'ils souhaitaient candidater. Pour l'avoir fait une après-midi entière sur 130 profils différents, j'ai eu 2 réponses de la part des candidats. Et sur les deux m'ont dit « Ah ben, malheureusement, en fait, je ne recherche plus dans cet emploi ».
Et maintenant, comment vous faites avec MatchFT ?
Et bien maintenant, j'envoie un SMS. Le premier SMS est toujours le même.
Ah, donc là, vous avez en fait un modèle du SMS type que va envoyer l'IA.
Exactement. Donc, bonjour. Il se présente, je suis l'assistant virtuel du conseiller France Travail de Blois-la-Place, qui vous propose un poste de peintre aéronautique et souhaite confirmer avec vous quelques informations liées à ce recrutement. Est-ce que vous êtes intéressé par cette offre ? L'IA va retravailler les SMS et va être capable de répondre à des questions en allant rechercher les informations dans l'offre d'emploi, ce qui fait que c'est
un peu comme un chatbot, mais par SMS.
C'est un petit peu ça, ouais. Donc, en fait, l'IA nous permet de gagner un temps considérable sur cette phase-là, que nous, on peut réinvestir ensuite sur l'accompagnement du public, l'accompagnement auprès des recruteurs. Et c'est vrai que ça, c'est du temps très, très précieux aujourd'hui que MatchFT nous dégage.
Bonjour, Marlène Marchand, chargée de clientèle pour Vitalliance. Nous sommes une entreprise d'aide à la personne. On a recruté, grâce à l'intelligence artificielle de France Travail, 3 personnes. Donc, on était très contents.
Est-ce que c'est allé plus vite que d'habitude ?
Ah oui, 3 recrutements sur une journée.
C'est très rapide, efficace.
Ah oui, parce que d'habitude, ça prend combien de temps pour recruter 3 personnes ?
On est plus sur du, pour une personne, 2-3 jours, voire la semaine.
Avant l'utilisation de l'intelligence artificielle, France Travail pourvoyait, en moyenne, une offre d'emploi en 26 jours. Avec l'IA, ce délai passe désormais à 24 jours. En interne, cependant, certains salariés sont méfiants. Nabila Oumaklouf est psychologue dans une agence France Travail à Marseille et représentante syndicale de Solidaires Sud Emploi. Elle s'inquiète de la mise en œuvre, à partir de cet été, de tout un panel d'outils, MatchFT, mais aussi ChatFT, Neo ou encore CalifFT, un système qui fera interagir les demandeurs d'emploi avec une voix virtuelle.
Malgré les discours institutionnels qui disent le contraire, l'idée, on a bien compris, c'était quand même de réduire les effectifs humains et de faire le travail par la machine. C'est-à-dire qu'en juillet, l'orientation des demandeurs d'emploi se fera d'emblée par la machine et non plus par les conseillers. Il n'y a pas forcément de personne pour valider. Ce qu'on a vu aussi, ce qui est déjà en vigueur, c'est au niveau de l'indemnisation. En fait, il y a déjà une automatisation de ce point de vue-là, ce qui cause beaucoup d'erreurs, de trop perçus par exemple. Il y a un effet très pervers qui fait que du coup, les usagers se retrouvent responsables finalement d'un trop perçu. Et à un moment donné, ils ne veulent plus avoir recours à leurs droits quand ils voient que finalement, ça les met en situation comme ça d'être en faute et de ne pas pouvoir en répondre. Ce sont des décisions de suspension de droits, d'obligation d'inscription, de radiation, et sur lesquelles les conseillers n'ont plus du tout la main. Et donc les usagers, encore moins.
En octobre dernier, 15 associations ont déposé un recours devant le Conseil d'État contre l'algorithme de la Caisse nationale d'allocations familiales. Parmi les plaignants, on trouve la Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France ou encore la Quadrature du Net. Je me rends dans les locaux de cette organisation qui défend les droits et les libertés sur Internet, dans le 20e arrondissement de Paris.
Je suis Bastien Lequérec, juriste à la Quadrature du Net.
Bastien Lequérec a analysé le fonctionnement de l'algorithme.
On a assez rapidement vu qu'il y avait en effet un algorithme dit de scoring de la CAF qui, chaque mois, attribue à un foyer allocataire d'une CAF une note comprise entre 0 et 1. Cette note, elle représente le risque que le foyer ait perçu une prestation indue, ce qu'on appelle un trop perçu. Donc, plus la note attribuée par l'algorithme de scoring est proche de 1, plus cela signifie que la machine estime qu'il y a un risque, donc sous-entendu, il faudrait contrôler cette personne, ce foyer, pour vérifier que cet indu existe ou pas. Nous, on a pu faire des simulations qui montraient vraiment que plus les personnes étaient précaires, plus leur score de risque allait augmenter. Dans les critères qui font augmenter le score de risque, on va avoir par exemple le fait d'avoir un revenu irrégulier. Un autre critère, c'est le fait d'être bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et de déclarer ça trimestriellement, ce qui signifie travailler à côté. Et dans l'algorithme, le fait de déclarer trimestriellement ses revenus et de bénéficier de l'AAH faisait augmenter très fortement le score de risque. Cet algorithme, il est en soi discriminatoire.
Aujourd'hui, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services publics s'accroît. C'était même l'un des thèmes de VivaTech, le salon annuel de l'innovation technologique qui se tient depuis mercredi, porte de Versailles. Je m'arrête devant le stand du ministère de l'Économie et des Finances. Frédéric Perdu est directeur de projet informatique à Bercy.
Derrière vous, je vois un panneau qui présente Olympia, la plateforme IA ministérielle.
C'est exactement ça, Olympia. C'est simplement l'installation d'un outillage qui pourrait ressembler à ChatGPT à l'intérieur des infrastructures de Bercy, donc vraiment isolé de l'Internet. Donc on va éviter effectivement qu'il y ait un certain nombre de données qui soient propres à Bercy, qui soient exposées à l'extérieur.
Vlad Valica, vous êtes responsable incubateur innovation à Bercy, ministère de l'Économie et des Finances.
Il y a certains types de cadres où la registration impose que vos transcripts et la prise de notes soient effectives et faites pendant la réunion. Imaginez-vous que lors des réunions, il y a la personne qui doit participer à la réunion et il y a une autre personne qui vient uniquement pour la prise de notes. Il y a, bon, ça a été évoqué dans des préfectures ou autres. Le système qu'on produit permet de créer des comptes rendus des réunions. C'est en phase d'expérimentation, nous ne sommes pas encore en production.
Un autre exemple, lorsqu'on constitue la loi de finances, il y a un grand nombre d'abonnements qui se sont déposés. Et en réalité, chacun de ces amendements doit être analysé par le service compétent de Bercy. Donc la DGFiP a mis en place un système basé sur une IA qui va aller distribuer chacun des amendements auprès du service compétent.
On ne parle pas de deux ou trois, il s'agit de milliers d'amendements.
L'aiguillage est chronophage en fait. Donc voilà, un exemple d'utilisation de l'IA pour améliorer l'efficacité de l'État.
Améliorer l'efficacité de l'État grâce à l'IA, le processus reste encore imparfait. En avril, une enquête de l'émission Cache Investigation sur France 2 a révélé que ces nouveaux outils pouvaient aussi être source d'erreurs et envoyer les contrôleurs fiscaux sur de fausses pistes. Henri Bergeron est directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire Transformation des organisations et du travail à Sciences Po. Pour lui, l'intelligence artificielle dans les services publics n'en est qu'à ses balbutiements.
On commence à collecter des données qui sont très préliminaires. Les cas d'usage sont pas aussi nombreux que ça. On n'a pas encore réellement réalisé d'études solides. D'une certaine manière, c'est la première fois qu'on a une possibilité d'automatisation de certaines activités, et ce sont essentiellement des activités intellectuelles via l'IA générative. Et donc ce qui nous intéresse, compte tenu de cette particularité de ce qui peut s'annoncer comme une révolution, ce qui nous intéresse, c'est l'impact que ça peut avoir sur les relations entre professionnels, la distribution des ressources et donc les relations de pouvoir entre agents au sein de la fonction publique. Les managers qui arrivent à gouverner leurs équipes de manière satisfaisante, ils le font parce qu'ils sont capables de résoudre toutes sortes de problèmes qui se posent aux équipes. À partir du moment où cette ressource intellectuelle n'est plus possédée de manière, on pourrait dire, monopolistique par le chef, mais directement accessible en ligne, eh bien ça prive le manager de cette capacité d'aider son équipe, et donc de cette capacité, quelque part, à la gouverner, à la manager, à l'engager et à la motiver.
Les premiers pas de l'intelligence artificielle dans les services publics, c'était le reportage d'Anaël Verzo.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Mon invité était à Vivatech quasiment toute la semaine. Bonjour et bienvenue Philippe Val.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Vous êtes le PDG de La Poste depuis 2013 et pendant encore 15 jours, on va en parler.
C'est vrai.
On va en parler, on va y revenir. Mais d'abord, La Poste, je rappelle que c'est un groupe, vous faites du courrier, vous faites du colis, vous faites de la banque, vous faites de l'assurance avec la CNP, vous faites du portage de repas, vous faites passer le permis de conduire. Tout ça, c'est ce que vous faites. Est-ce que dans tous ces domaines, l'intelligence artificielle, pour vous, il y a beaucoup de questions, on l'a entendu pendant le reportage, pour vous, c'est un atout?
Oui, c'est un atout. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est un nouveau langage. Et c'est un nouveau langage que nous allons tous devoir apprendre, les uns et les autres. C'est comme ça que nous l'expliquons à nos salariés. Et nous avons commencé à l'apprendre. 83 000 des 200 000 postiers en France ont déjà suivi un tuto qui s'appelle Objectif IA et qui dure 4 heures. Et qui explique les bases de ce nouveau langage. Donc, ce nouveau langage, il faut le considérer comme un atout. Il va transformer des tâches de travail, il va aussi supprimer des tâches de travail. Il faut donc former les salariés, il faut en parler pour baisser l'inquiétude. Et puis, l'intelligence artificielle pour La Poste, c'est aussi du business. Nous avons deux filiales d'intelligence artificielle au sein de La Poste. ProBayes à Grenoble, Open Value à Paris, qui vendent des services d'intelligence artificielle.
Ils font quoi ?
Mais parce que c'est de la confiance, parce que c'est de l'information, et par exemple, le pilotage des navires de CMA-CGM dans le monde est fait notamment grâce à un algorithme de ProBayes. Donc pour nous, c'est aussi une activité. Et donc c'est un atout, il faut simplement aborder la complexité en expliquant ce nouveau langage, et surtout en donnant les moyens aux salariés de se l'approprier.
Et Paul, dans l'interaction avec les usagers, on a vu que c'était une question pour tous les services publics dont on vient de parler. Est-ce que vous avez un projet ou est-ce que vous avez déjà des expérimentations d'IA et de dialogue avec une IA pour les usagers de La Poste ?
Bien sûr, nous l'avons. Nous l'avons pour répondre à des questions.
Ça, c'est le chatbot. C'est un chatbot, c'est ça ?
C'est un chatbot, mais enrichi. Nous avons aussi transformé des tâches de nos salariés. Vous savez, nous recevons des milliards de factures. Aujourd'hui, les factures ne sont plus lues et intégrées par un salarié. Elles sont intégrées et lues par l'intelligence artificielle. C'est donc un progrès. Nous avons, à La Poste, toujours la même préoccupation : offrir un accès numérique et garder un accès humain. Et il suffit de visiter les bureaux de poste. J'étais dans le Gers il y a un mois. Et il y a toujours cette double possibilité. Nous avons des automates. Ceux qui maîtrisent les automates vont sur les automates. Ça va évidemment beaucoup plus vite. Et l'intelligence artificielle les aide. Ceux qui n'accèdent pas à ces automates, eh bien, ils ont les postières et les postiers qui les accueillent, qui leur prennent la main et qui s'efforcent de leur expliquer le numérique. Nous cherchons chaque fois à être digital et humain à la fois.
Bon, Philippe Val, l'avenir de la Poste, vous l'avez écrit ces 12 dernières années. Il va continuer de s'écrire sans vous. On parle un peu de votre succession. Il paraît que c'est une question de jour.
Écoutez, le processus est engagé, ce qui explique que je ne peux quasiment rien vous dire. Sinon que ça peut être une question de jour. Et vous savez, à la fin du jour, c'est toujours une question de jour.
Bon, d'accord. Alors, parlons plutôt de la polémique. Alors, l'un des candidats travaille dans le groupe, il s'appelle Stéphane Dédéian, c'est le patron de la Banque Postale. Le Canard Enchaîné affirme qu'il demande à conserver son salaire actuel, ce qui fait quand même 610 000 euros plus le variable, et à la fin, ça fait plus de 800 000, 850 000. C'est donc bien au-delà des 450 000 euros de maximum que peut obtenir un grand patron du public. J'ai lu que vous le soutenez. Est-ce que vous le soutenez toujours ?
Alors moi, je ne vais pas vous dire qui je soutiens parce que ça n'a aucune importance puisque c'est le président de la République, le Premier ministre, qui décide qui sera le patron de la Poste. Sur cette affaire de salaire, les choses sont simples. Ce salaire, qui est dans un groupe public, a été établi de manière complètement normale. Dans le cadre des règles.
Vous parlez du salaire de la Banque Postale, là, des plus de 800 000. Ouais.
Complètement dans les règles, normales, unanimité du Conseil. Les syndicats ont voté pour ce salaire. Les syndicats ont voté pour ce salaire. Je les cite, CFDT, CGT, SNB. Donc, je ne vois pas le problème. Et maintenant, c'est au gouvernement et au président de trancher.
Est-ce que vous, par exemple, le plafond pour un patron de la Poste, c'est 450 000 euros annuels.
C'était 450 000 euros avant l'opération avec la Caisse des dépôts. Là, c'est au gouvernement de décider ce qu'il doit en être.
Parce que maintenant, la Poste n'est plus détenue à 100% par l'État, mais à 34% par l'État et 66% par la Caisse des dépôts.
Exactement. Nous sommes, depuis la fameuse opération Mandarine, dont je suis venu parler ici, qui est le rapprochement de la Caisse des dépôts et de la Poste, de la Banque Postale et de CNP, une filiale de la Caisse des dépôts, ça change les choses.
Vous pensez qu'on peut aller au-delà ? Donc vous pensez que là...
Moi, je ne pense rien. Mm-hmm. C'est le gouvernement et l'État qui doivent fixer les règles.
Bon. 12 ans à la tête de la Poste, vous êtes le patron qui gagne de l'argent grâce aux services financiers, grâce aux colis, mais vous êtes aussi le patron qui voit plonger l'activité historique, c'est-à-dire le courrier. Est-ce que ça va continuer d'être ça le défi pour votre successeur ou successeuse ?
C'est évidemment ça le défi. Vous savez, nous avons depuis 2013 perdu 7 milliards d'euros liés aux colis. C'est considérable. Nous faisions un chiffre d'affaires, lorsque je suis arrivé, de 22 milliards. Nous en avons fait avec... le courrier perdu 7. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de la boîte, c'est 35 milliards. Donc, comme vous le voyez, nous ne sommes pas restés inertes. Nous avons développé l'entreprise vers le colis, vers le numérique, vers la banque assurance, vers les services de proximité humaine. Et tout ça a fait plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices, plus d'intéressement pour les salariés et une transformation totale de l'entreprise. Cette transformation, je pense, c'est une réussite. Et elle est d'abord due aux postières et aux postiers qui ont accepté cette transformation, qui l'ont accompagnée, qui se sont engagés dans cette transformation.
Oui, vous leur faites faire des trucs hein, quand même, parce que quand ils font des choses différentes, les postières et les postiers.
Mais c'est normal, le métier de distribution de la lettre a disparu. Quelle est la puissance d'une entreprise ? C'est sa capacité à s'adapter. Eh bien, nos 240 000 postiers et postiers se sont adaptés puissamment au cours de ces 12 dernières années.
Alors, la Cour des comptes, elle s'est intéressée en février dernier à votre stratégie d'adaptation. En substance, elle dit, bon, alors, toutes ces activités annexes, là, le portage des repas, l'accompagnement des personnes âgées, ça vous a un peu éparpillé à la Poste. Surtout, ça ne compense pas les missions de service public qui sont déficitaires. La recommandation des sages, c'est d'arrêter avec la distribution du courrier 6 jours sur 7. Est-ce que ça, Philippe Val, c'est inéluctable ?
Non, ça n'est pas inéluctable et je ne pense pas que ça nous fasse faire des économies. Il y a deux sujets différents. Il y a l'avenir des services de proximité humaine et il y a le sujet de la sous-compensation. Prenons-les dans l'ordre. L'avenir
parce qu'on n'a pas non plus 3 heures. Hein.
Non, non, mais alors... très rapidement, vous allez voir. L'avenir des services de proximité humaine est lié au vieillissement de la population. La démographie est certaine. Explosion des besoins des personnes âgées. Les factrices, les facteurs, la poste sont là. Repas, services, visites à domicile. Bien sûr que ça n'est pas encore aussi puissant que nous l'espérons, mais avec le vieillissement de la population, ça va venir. La sous-compensation, ça c'est une autre...
Alors ça c'est 1,2 milliard, vous le répétez régulièrement, que l'État devrait vous verser pour les missions de service public et qu'il ne vous verse pas.
Exactement, et comment est-ce qu'on mesure ce 1,2 milliard? C'est très simple, l'ARCEP, qui est une autorité indépendante, dit les 4 missions de service public qu'a la Poste, ça lui coûte 2,2 milliards. C'est pas nous, c'est l'ARCEP qui le dit. Et nous recevons une compensation d'un, donc vous avez bien fait la soustraction. Bon, c'est 1,2 qui nous manque.
Mais Philippe Val, ça ne vous aura certainement pas échappé. L'État, il est en train de chercher 40 milliards d'euros. C'est pas sûr que vous receviez que la Poste, en tout cas l'entreprise que vous allez laisser, reçoive ce 1,2 milliard. Donc est-ce qu'il faut distribuer le courrier que 5 jours sur 7? Est-ce qu'il faut faire disparaître encore des bureaux de poste ou des boîtes aux lettres? Est-ce que les actionnaires des grands groupes de presse doivent payer plus par la distribution de la presse, ça va être quoi la solution?
La solution, elle est les mains des hommes et des femmes politiques du pays. C'est l'État qui décide ça. La Poste, elle s'adaptera au périmètre des missions qu'on lui donnera. Et c'est ça, si l'État ne veut pas compenser, alors il faut qu'il diminue les charges et le périmètre.
C'est-à-dire mais les missions de service public, là on est en train de parler de ça.
Mais c'est à lui de le décider, pas à la Poste.
Chine et Temu, c'est 22% des colis que vous gérez?
Ça a un peu baissé dans la période récente.
Si les commerçants français disent qu'il faut les déréférencer, si l'Union européenne veut les taxer, pour vous, c'est un coup dur?
C'est un coup dur et en même temps, ce qui est essentiel, c'est que la distribution des produits se passe bien. Je veux dire que les produits soient conformes, qu'il n'y ait pas de contrefaçon, qu'il n'y ait pas de problème de qualité. Donc, mettre de l'ordre dans le système de distribution des produits, notamment des produits chinois, c'est indispensable. Par contre, la taxe de 2 euros par colis, elle manque sa cible. D'abord, elle concerne les colis de moins de 2 kilos. Il suffit de faire un colis de plus de 2 kilos et on échappe à la taxe. Elle taxe le colis, mais elle ne taxe pas le conteneur. Donc, il y a un sujet de taxation, mais il doit être pris autrement et d'une manière beaucoup plus générale, coordonnée, évidemment avec l'Union européenne. Je ne pense pas qu'une solution française soit une bonne solution, parce que si on taxe en France et pas autour, ben c'est simple, ça s'appelle le détournement de trafic.
Une question sur ce qu'il y a dans les colis et qui est plus grave, c'est en rapport avec le drame de Nogent où une surveillante a été poignardée par un élève de 14 ans. Le Premier ministre a promis la mise en place d'un contrôle de la majorité pour la livraison de colis ou de ce genre de colis. On n'a pas bien compris. Est-ce que vous travaillez sur une piste?
Alors nous travaillons sur des mécanismes d'identification de l'âge des usagers et des clients. Et nous avons aujourd'hui, pour l'accès aux sites pornographiques, une procédure qui permet de déterminer l'âge de l'usager des sites pour adultes. Ça se fait soit par l'identité numérique de la Poste, et à ce moment-là, on a l'âge du destinataire.
Ouais, on a bien vu, oui, il n'y a pas beaucoup
de... Oui, mais ça joue quand même, et il y en a des millions qui ont été distribués par la Poste, ou alors de la reconnaissance faciale qui permet de déterminer l'âge. Ça, c'est pour 18 ans. C'est plus simple que pour 15 ans, parce qu'à 18 ans, on a une pièce d'identité et on est majeur. Mais on est en train de travailler sur ces méthodes de reconnaissance.
Philippe Val, le PDG de La Poste, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci de votre invitation.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Alors, on a notre auditrice Laure, elle vous a écrit de Grenoble. Laure aimerait que son employeur lui paie son salaire avant le premier du mois, surtout lorsque le premier tombe pendant le week-end. Peut-elle l'obliger à la payer à certaines dates?
Alors oui, c'est vrai, les systèmes de virement bancaire de compte à compte ne fonctionnent pas les jours fériés et les week-ends. Parfois, il faut attendre le lundi suivant pour toucher son salaire. Mais non, Laure, vous ne pouvez pas exiger de votre employeur qu'il vous paie le 28 du mois, par exemple, à moins d'une d'une convention collective qui disent le contraire, le Code du travail ne prévoit aucune date fixe. C'est pareil pour la délivrance du bulletin de paye. Mais une fois que l'entreprise a arrêté une date, le 30 par exemple, elle doit respecter cette régularité et ne pas attendre le 10 pour s'exécuter. Si l'employeur ne vous paie pas en temps ou en heure, alors il encourt une amende de 450 €. Et si la situation s'aggrave, il est toujours possible de réclamer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice. La mensualisation du salaire a quelques défauts. Elle a aussi des avantages. Grâce à sa mise en place il y a 47 ans, les Français ont enfin pu recevoir le même salaire fixe chaque mois, qu'il fasse 28 jours ou 31. Je rappelle que ce n'est plus le cas pour les chômeurs. Depuis cette année, ils perdent des allocations lorsque le mois est plus court. Pour les salariés, la mensualisation permet d'anticiper, d'y voir plus clair, surtout avec des heures sup. Il y a quand même une chose à faire, Laure. Si vous redoutez des paiements trop tardifs, vous avez le droit à un acompte sur salaire. C'est peu connu, mais vous pouvez le demander une seule fois, dès le 15 du mois, et toucher la moitié de votre paye. L'employeur ne peut pas refuser.
Et on a beaucoup parlé, Sandrine, de cette proposition de loi du député Jean Lossuc, qui consiste à recevoir jusqu'à 5 acomptes par mois. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Alors, un acompte, ce n'est pas une avance sur salaire. C'est moins dangereux, ça évite de faire de la cavalerie et de devoir un jour rembourser l'employeur. L'acompte ne porte que sur des jours déjà travaillés. C'est utile pour régler un loyer ou une dépense imprévue sans devoir payer des agios à la banque. Un peu plus de souplesse dans le dispositif serait le bienvenu. C'est encore souvent un parcours du combattant pour l'obtenir. La proposition de loi prévoit des versements en 48 heures et limite ces acomptes à la moitié du salaire. Les entreprises ne sont pas toutes ravies. Si le texte était adopté, ça voudrait dire plus de paperasse, surtout dans les petites boîtes. Les syndicats sont eux aussi assez sceptiques. Si on doit demander des acomptes pour ne pas être dans le rouge, c'est que les salaires ne suivent pas. L'an passé, la Banque de France a enregistré une hausse de 11% des dossiers de surendettement sur une année. Et dans plus de la moitié des cas, ce sont des gens qui travaillent.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.